Yes.
Now, how about showing them what I mean with, do you know what it means?
You want
to
do that,
Miss Orley?
Yeah, okay. Well, let's chirp it first, huh?
Do you know what it means?
Jazz Story. Luxie Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes. En novembre et décembre, écoutez nos 8 épisodes sur le free jazz, révolution musicale et esthétique. Le free jazz est un mouvement artistique aussi audacieux qu'il est hétérogène. Car qu'est-ce que le free, si ce n'est l'affirmation ultime d'un nouvel affranchissement musical, le rejet de formalisme normatif et de cloisons structurelles, afin de laisser place à une expressivité débridée. À chacun sa propre expression, à chacun sa propre liberté. Cette philosophie émancipatrice a bouleversé les codes musicaux du XXe siècle et ses répercussions s'étendent bien au-delà du monde du jazz. Dans cette série sonore, vous pourrez découvrir une musique unique et exigeante, retracée à travers une sélection d'albums qui ont marqué son histoire. Épisode 4, Out to Lunch.
Thank you.
dès l'ouverture de l'album, on est surpris. Le premier morceau commence avec... Trompette et clarinette laissent échapper une courte note aiguë, puis disparaissent, cédant la place à une ligne oblique de basse qui tourne en ostinato, accompagnée par le swing léger de Tony Williams à la batterie. Les deux vents rajoutent quelques interjections, auxquelles répond immédiatement un vibraphone par des tritons dissonants. Puis, la clarinette basse vient se superposer, à l'unisson, sur le riff de contrebasse, alors que derrière, la batterie joue des tours, change les rythmes, voire s'arrête de jouer. Il est insolite ce riff. Il est en 9-4, étrangement mécanique et angulaire, harmoniquement un peu décalé. Il y a cet arpège qui dessine un accord de septième de dominante, créant une illusion tonale. Puis cette descente. C'est la gamme par ton. Une gamme symétrique et qui n'a donc, par définition, pas de centre tonal. Un outil de choix pour épicer son jeu d'une pointe d'atonalisme et une gamme qu'affectionnait particulièrement Thelonious Monk. L'homme aux nombreux chapeaux. Hat and Beard, le morceau lui est d'ailleurs dédié. C'est en tout cas une étrange exposition. Vient ensuite le tour du premier soliste. Une clarinette basse qui fait des bruits pareils, ça ne peut être qu'une seule personne, Eric Dolphy. Vocalisation nasillarde, déformation du timbre, saut d'intervalle, envolée acrobatique qui traverse les registres. Sa technique de virtuose et la richesse et l'abstraction de son vocabulaire d'improvisateur étaient uniques et ont influencé toute une génération d'instrumentistes après lui. Freddie Hubbard à la trompette prend le second solo. Hubbard est souvent catégorisé comme l'un des grands praticiens du style hard bop. Et pourtant, il figure sur bon nombre d'albums phares du mouvement avant-garde des années 60. Dont Free Jazz d'Ornette Coleman et Ascension de John Coltrane. Il semble d'ailleurs relativement confortable dans des contextes plus free, improvisant certes avec un langage ancré dans l'harmonie tonale du bop, mais qui sert aussi à contraster le jeu de ses partenaires au son plus expérimental, comme Dolphy. Richard Davis à la contrebasse et Bobby Hutcherson au vibraphone complètent l'ensemble. La complicité et l'écoute entre les différents membres est remarquable. C'est d'ailleurs la marque de fabrique des grands groupes d'improvisateurs. Leurs échanges foisonnent d'idées, et chacun a du répondant. Williams est étincelant aux baguettes. Son utilisation de la batterie est totale. Les rythmes, les cadences, les textures sont en perpétuelle mouvance. Et aussi, le tempo. Il suffit de comparer celui du début avec celui de la fin. Le prochain morceau de l'album s'intitule « Something Sweet, Something Tender ». ». L'album que nous écoutons s'intitule Out to Lunch. Il sort en 1964. C'est le cinquième album d'Eric Dolphy en tant que leader et l'unique qu'il enregistrera pour le label Blue Note. Après le ton singulier du morceau d'ouverture, on passe à une ballade qui démarre par un étonnant duo entre Dolphy à la clarinette et Richard Davis à la contrebasse. Puis, Freddie Hubbard vient se rajouter pour tisser une mélodie aux harmonies délicates et troublantes, qui n'est pas sans rappeler Charles Mingus. Sûrement pas un hasard si l'on entend des soupçons de Mingus dans la musique de Dolphy. Ou serait-ce l'inverse? Les deux artistes auront formé un des partenariats musicaux les plus significatifs de la décennie. Dès 1960, Dolphy enregistre avec le bassiste sur son album Charles Mingus Presents Charles Mingus. Puis, le suit pour une tournée qui produira le live d'anthologie Mingus à Antibes. En 1964, quelques mois à peine après l'enregistrement de Out to Lunch, il rejoint à nouveau Mingus pour une autre tournée européenne avec un groupe qui est souvent loué comme étant le meilleur de toute la carrière du bassiste. Dolphy prendra la décision de ne pas retourner aux États-Unis après cette tournée, mais de s'installer en Europe, ce qui n'était pas rare à l'époque pour des musiciens de jazz qui souhaitaient échapper à la ségrégation et se trouver un nouveau public. Mingus est très touché lorsque son cher ami lui annonce cette nouvelle. Et cela lui sert d'inspiration pour le titre d'une de ses compositions. On écoute So Long, Eric. Don't stay over there for too long. Extrait du live au Théâtre des Champs-Élysées à Paris, d'avril 1964. Thank you. Danny Richmond est à la batterie, et on a entendu des solos de la part de Johnny Coles au saxophone ténor, puis de Jackie Bayard au piano. Le dernier, vous l'avez sûrement deviné, c'était bien Eric Dolphy. En revanche, cette fois-ci, on l'entend au saxophone alto. Dolphy était un véritable multi-instrumentiste. Mingus dira de lui, il maîtrisait le jazz et il maîtrisait tous les instruments qu'il jouait. Et d'ailleurs, il savait faire plus qu'on ne croyait possible sur chaque. Sur le prochain morceau d'Outer Lunch, intitulé Cazzelloni, on entend Dolphy à la flûte traversière.
Thank you.
tous les morceaux de l'album, Gazzelloni est peut-être celui qui s'apparente le plus à un morceau de bop classique. Un thème en ABA au début et à la fin, une succession de solos entre les deux, avec, par moments et seulement approximativement, un accompagnement swing en 4-4 avec walking bass. Mais tout de même, on ne croirait pas entendre du Art Blakey. Mélodiquement et harmoniquement, on est loin des structures tonales du pop. Basse et batterie ne jouent pas le rôle traditionnel d'accompagnateur, mais sont des acteurs à part entière dans un effort d'improvisation de groupe. La musique est libre et fluide. Devrait-on parler de free ? Ou alors de jazz avant-garde, une appellation pourtant un peu anachronique ? Comme c'est souvent le cas avec la critique musicale, la terminologie est un peu floue et parfois contentieuse. Peut-être devrait-on parler plutôt de post-bop, un terme qui désigne un courant dans le jazz qui, à partir du milieu des années 60, incorpore des éléments de l'esthétique de l'avant-garde sans rejeter toutes les conventions de l'improvisation en petit ensemble hérité du bop. Les formes, les structures et les rythmes sont plus libres. L'harmonie devient plus abstraite par des techniques de substitution et de superposition. On joue des compositions originales plutôt que le répertoire de standard. Et l'emphase est toujours placée sur l'interaction spontanée. Le post-bop est avant tout associé au second grand quintet de Miles Davis, qui était actif de 1964 à 1968. Thank you. c'était Obit, extrait de l'album Miles Smiles. Herbie Hancock est au piano, Ron Carter à la contrebasse et Wayne Shorter au saxophone. À noter surtout qu'au-delà des rapprochements stylistiques entre la musique de Out to Lunch et celle du second quintet de Miles, il y a un facteur commun essentiel. L'homme aux baguettes, Tony Williams. Il a à peine 18 ans quand il enregistre Out to Lunch avec Dolphy, et quelques mois plus tard, il allait rejoindre le légendaire trompettiste pour former un des groupes les plus influents de toute l'histoire du jazz. Écoutons désormais Out to Lunch, le morceau éponyme. Out to Lunch sera le dernier album d'Eric Dolphy. Il part pour l'Europe avec Mingus quelques mois plus tard et prévoit de s'y installer avec sa fiancée, la danseuse Joyce Mordecai. Mais il meurt de manière soudaine le 29 juin 1964, après être tombé dans un coma lié à un diabète non diagnostiqué. Les circonstances exactes de sa mort demeurent incertaines. Mais certains prétendent qu'il a été une victime du racisme systémique. Son ami, le trompettiste Ted Curson, se souvient. Ça m'a réellement brisé. Quand Eric est tombé malade à Berlin, et comme il était noir et musicien de jazz, on l'a pris pour un junkie. Eric ne prenait jamais de drogue. Il était diabétique. Il n'avait qu'à faire une prise de sang et il l'aurait su. Ils lui ont donné quelque chose pour le détox et il est mort. Donc il est mort pour rien. Encore un artiste au talent prodigieux, dont la carrière fut avortée. Ses albums enregistrés à partir de 1960, dont Out to Lunch représente la culmination, offrent une merveilleuse perspective sur le développement d'un artiste visionnaire et inlassablement créatif. On ne peut qu'imaginer avec regret les directions dans lesquelles il aurait pu nous amener. En hommage à son ami, John Coltrane dira « Mes mots ne peuvent pas lui faire honneur. » tout ce que je peux dire, c'est que le connaître embellit ma vie. C'est une des plus belles personnes que j'ai connues, en tant qu'homme, ami et musicien. So long, Eric.
Lex Wright vous raconte le jazz sous toutes ses formes. En novembre et décembre, écoutez nos 8 épisodes sur le free jazz, révolution musicale et esthétique, les lundis, jeudis et dimanches à 17h.